VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par les États-Unis. La Cour d'appel de San Francisco en Californie va entendre aujourd'hui les partisans et adversaires du décret du président Donald Trump interdisant l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Jean-Roger Bion fait le point.
Les États de Washington et du Minnesota à l'origine de la plainte qui a débouché sur un ordre de suspension temporaire de l'application du décret rendu par un juge fédéral de Seattle et l'administration Trump qui a fait appel de cette décision ont fourni des documents à la Cour dans la journée de lundi. Celle-ci a décidé d'écouter une présentation orale des arguments des deux camps mardi à 15h, 23h GMT avant de rendre sa décision. Bob Ferguson, le procureur général de l'État de Washington, s'est dit confiant. Dans un tribunal, ce n'est pas la voix la plus forte qui s'impose, c'est la Constitution, a-t-il déclaré. Si l'appel du département de la justice n'aboutit pas, l'administration Trump devra se tourner vers la Cour suprême pour tenter de faire appliquer à nouveau le décret controversé.
En visite lundi au siège en Floride du CENTCOM, le centre de commandement militaire américain, notamment pour le Moyen-Orient, le président Donald Trump a réitéré sa détermination de renforcer les contrôles aux frontières pour lutter contre le terrorisme. Plus de précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Sans donner de détails sur sa stratégie, Donald Trump a assuré que les États-Unis et leurs alliés vaincraient le terrorisme islamique radical. Il a ajouté... Nous envoyons un message uni à ces forces de mort et de destruction. L'Amérique et ses alliés vous vaincront. Le président républicain a signé fin janvier un décret donnant jusqu'à fin février à ses responsables militaires pour lui présenter un plan détaillant une stratégie exhaustive pour vaincre le groupe État islamique. Le CENTCOM a mené près de 18 000 frappes en Syrie et en Irak depuis le début, en août 2014, des opérations de la coalition internationale dirigée par les Américains contre le groupe État islamique.
Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, nouvelle manifestation de militaires mécontents. Des soldats ivoiriens des forces spéciales ont tiré ce mardi de nombreux coups de feu en l'air à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, où se trouve une base militaire. C'est ce qu'ont déclaré à l'AFP des habitants du secteur. « Ça tire en l'air un peu partout, j'ai dû fermer mon commerce », a témoigné Mariam Koulibaly, une habitante jointe par téléphone depuis Abidjan. Une source au ministère ivoirien de la Défense annonce l'arrivée urgente sur place d'un haut gradé de l'armée, le général Lassina Doumbia, commandant des forces spéciales. Rappelons que début janvier, la Côte d'Ivoire avait été secouée par une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée, lesquels avaient paralysé plusieurs villes pour réclamer le paiement de primes. En satisfaisant leurs revendications, via le paiement de primes à 8500 ex-rebelles qui avaient contrôlé le nord du pays entre 2002 et 2011, les autorités ont provoqué la colère des militaires et gendarmes non concernés par cet accord financier. Les mécontents s'étaient mutinés à leur tour et des affrontements avaient fait 4 morts à Yamoussoukro dans le centre du pays. Le gouvernement ivoirien a alors promis d'améliorer les conditions de vie de toutes les forces de sécurité. La lutte contre l'insécurité dans le Sahel maintenant, lors du sommet du G5 Sahel lundi à Bamako, les présidents du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad ont convenu de créer une force militaire conjointe anti-terrorisme. Les détails avec Eric Manirakiza.
Cette force est constituée pour combattre les groupes djihadistes qui se servent notamment du Mali comme base de repli. Baptisée Force conjointe du G5 Sahel, ce sommet de Bamako n'a précisé ni les effectifs, ni le commandement, ni le mode de fonctionnement. Le Nigérien Mahamadou Issoufou a indiqué qu'ils vont demander une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour appuyer sa création. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient déjà convenu le 24 janvier à Niamey de la mise en place d'une force de sécurisation du Liptako-Gourma, une région à cheval sur les 3 pays. Un communiqué précise quelle sera la composante de la future force conjointe. Le 18 janvier, un attentat suicide a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali. Cette localité est également un lieu de départ des attaques contre d'autres pays, ont affirmé dans un document les 5 chefs d'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, la reprise des cours se fait timidement dans les deux régions anglophones, en dépit du fait que les établissements d'enseignement devaient y rouvrir leurs portes depuis hier. Pourtant, le gouvernement avait informé la population dès le week-end dernier sur les antennes de la Radio Nationale que le mot d'ordre de grève était levé. Le point avec Emmanuel Jules Ntap, le correspondant de VOA Africa Yaoundé, au micro de John Lyndon.
La reprise de cours n'a pas été effective normalement comme le souhaitait le gouvernement et même l'esprit et la lettre du communiqué qui a été rendu public samedi dernier. Les sources que nous avons contactées à Panenda, soit des sources officielles ou bien des journalistes, nous ont fait part de ce que un mouvement appelant à une ville morte a été largement suivi, ce qui fait donc que la reprise des cours normale n'a pas été effective hier à Bamenda, à Boya, ainsi que dans les autres principales villes de ces deux régions anglophones du Cap.
Alors, on parle également des tracts qui sont distribués dans la ville et qui appellent aux journées ville morte. Qu'est-ce qu'il en est réellement?
Alors, il faut dire que c'est une nébuleuse, mais qui est réelle, en ce sens que les gens sont effectivement en possession des tracts, mais on ne sait pas qui se casse derrière. Il y en est véritablement le commanditaire. Les tracts appellent à trois journées de ville morte. Il y a la journée du 6 février, il y a la journée du 10 février et la journée du 11 février. Pour la date du 10, il faut préciser que ce sont là des dates stratégiques. Parce que le 10 février, on a un jour de la célébration de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Et naturellement, le 11 février est une journée fériée au Cameroun, au cours de laquelle toute la jeunesse du Cameroun est mobilisée à prendre part à toute une fête en mémoire de la jeunesse. Je voudrais préciser que la date du 11 février symbolise cette date de rattachement du Cameroun qui était sous la direction du Nigeria à l'autre partie du Cameroun sous administration française. Et les commanditaires donc des grèves, que ce soit des enseignants ou des avocats, qui sont dans une logique de sécession et de fédéralisme, ne voudraient pas que cette fête-là puisse être célébrée dans les deux zones anglophones. Au fur et à mesure qu'on s'approche donc de cette fête, il y a donc cette manœuvre-là, les tracts, qui font en sorte que, visiblement, les parents ont peur, ce d'autant plus qu'au cours de la nuit de dimanche à lundi, il nous a été rapporté, nous avons vérifié d'ailleurs cette information, qu'il y a un bâtiment administratif qui a pris feu à Bamenda. Tout cela donc sème tout un vent d'insécurité qui est tel que, malgré le communiqué qui a été rendu public appelant à la levée du mot d'ordre de grève, malgré les bonnes intentions du gouvernement camerounais, le déploiement sécuritaire, il faut dire que dans les deux zones du Cameroun, à Bamenda, à Boya particulièrement, la vie ne tourne pas encore normalement tel que l'aurait souhaité le gouvernement.
Emmanuel Jules Ntap, correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, au Cameroun. En Somalie, patrouille de soldats lourdement armés, écoles et magasins fermés, routes bloquées. La capitale somalienne, Mogadiscio, était sous haute surveillance militaire ce mardi à la veille d'une élection présidentielle déjà maintes fois reportée. Les autorités veulent à tout prix éviter une nouvelle attaque des islamistes Chebab. Tatiana Mousso.
Sécurité oblige, c'est donc dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio que les 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus choisiront le chef de l'État parmi 22 candidats dans un scrutin à plusieurs tours qui marquera la fin d'un processus entaché de nombreuses accusations de corruption et de fraude. Prévue en août, l'élection du président somalien a été plusieurs fois repoussée. Elle doit clore un processus électoral entamé en 2016. Toutefois, l'issue du scrutin reste incertaine car les différents clans risquent d'ajuster leur stratégie suivant les tours de vote. Quelques candidats se détachent, dont l'actuel président Hassan Cheikh Mohamoud et son prédécesseur Sharif Cheikh Ahmed. Le suffrage universel avait été initialement promis, mais cet engagement a été abandonné en 2015 en raison de querelles intestines combinées à une insécurité chronique due aux islamistes Chebab qui frappent régulièrement Mogadiscio. Maintenant, l'instauration du suffrage universel est envisagée pour 2020.
Et pour terminer, les médias au Togo. Dans ce pays, la haute autorité de l'audiovisuel a retiré les fréquences de deux médias privés qui émettent depuis 10 ans. Pour n'avoir pas rempli les formalités préalables d'autorisation, déclare cette haute autorité. La télévision, la chaîne du futur et la radio City FM, qui appartiennent au groupe Sud Média, n'ont obtenu aucune autorisation préalable avant de commencer à émettre en 2007, a déclaré Mathias Ayena, deuxième rapporteur de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les deux médias visés ont cessé d'émettre tôt ce matin. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.